Un concert, le 12 novembre 1989, il y a 30 ans à Berlin. Le mur est tombé 3 jours auparavant. Je regarde des extraits sur internet et je me souviens, ça fait partie de ces moments dont on se souvient. Et quand je regarde la vidéo de ce concert, je me souviens de tout, en fait, de l'émotion, de la liberté, de la réconciliation, quand retentit surtout la 7e symphonie. C'est un moment d'humanité, comme on n'en entend jamais. Et je pense à ces mots de Victor Hugo qui disait de ces pièces de Beethoven qu'elles sont des voix ajoutées à l'homme, une dilatation de l'âme dans l'inexprimable. Il écrit « Les symphonies de Beethoven sont des resplendissements d'harmonie, un intraduisible dialogue de l'âme avec la nature. Ce bruit la pense. Dans cette végétation, il y a le nid. Dans cette église, il y a le prêtre. Dans cet orchestre, il y a le cœur humain. Cette grandeur sert à faire aimer. Ces symphonies éblouissantes, tendres, délicates et profondes, ces merveilles d'harmonie, ces irradiations sonores de la note et du chant sortent d'une tête dont l'oreille est morte. Il semble qu'on voit un dieu aveugle créer des soleils. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, des soleils chaque fois que je regarde la vidéo de ce concert. Le 12 novembre 1989, il y a 30 ans à Berlin, le mur était tombé 3 jours auparavant.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelles images mon invité d'aujourd'hui retient-il de ce moment dont il fut le maestro, pianiste, chef d'orchestre, cofondateur du Western Divan Orchestra il y a 30 ans, 3 jours après la chute du mur, le 12 novembre 1989, c'est bien lui qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Berlin pour ce concert historique. Bonjour Daniel Barenboim.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, où est-ce que vous étiez quand le mur est tombé? Vous vous souvenez?
Oui, j'étais à Berlin parce que j'ai enregistré un opéra de Mozart avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et comme par hasard, Patrice Chéreau, qui était un ami intime à part d'être un collaborateur, était à Berlin et nous sommes allés dîner ensemble le soir du 9 novembre.
Et vous l'avez appris avec lui?
Oui, mais c'était pas clair. Le soir, il y avait des bruits qui couraient. Mais c'était pas clair. La confirmation est arrivée le vendredi matin.
À quoi vous avez pensé immédiatement quand tout cela a été confirmé?
La division de l'Allemagne était un sujet très complexe. C'était pas seulement le mur de Berlin, c'était Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. C'était toute l'ex-Allemagne de l'Est qui avait pas connu la démocratie pendant 5 ou 6 générations. En même temps, c'était le même peuple. C'est ça la complexité de la chose. C'était 2 sociétés allemandes, toutes les 2, qui avaient décidé de se réunir.
Ça vous a ému tout de suite?
Énormément.
De quoi le concert qui a eu lieu le 12 novembre a-t-il été le symbole pour vous?
Le symbole de la liberté, de la destruction des frontières.
Et quelle atmosphère régnait?
Folie totale. Le concert était un dimanche, le 12, à 11h, et la queue a commencé à se réunir à 4h du matin. C'était vraiment une folie totale.
Et à quel moment, Daniel Barenboim, ce concert s'est-il décidé? Parce que ça s'est produit quand même tout de suite, pratiquement.
Mais le mur est tombé le 9. En effet, le 9 au soir, et le 10, le vendredi 10, j'avais des séances d'enregistrement avec l'Orchestre Philharmonique et les musiciens sont venus me voir pour demander si je serais prêt à diriger un concert avec eux. Et moi, je dis oui, avec 2 conditions. Le premier, que ce soit gratuit, parce que ce n'est pas le moment d'avoir affaire avec les finances, et que ce soit pour les citoyens de l'Allemagne de l'Est, de Berlin-Est. Sinon, ça aurait été les abonnés qui vont régulièrement chaque semaine au concert de la Philharmonique de Berlin, qui auraient eu un concert gratuit.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ouvrir ce concert avec le concerto numéro 1 pour piano de Beethoven ?
Pour une raison complètement pratique et pas du tout poétique, c'est qu'on avait joué ce programme 2 semaines avant dans un concert d'abonnement. Comme on n'avait pas le temps de répéter, c'était vraiment la solution la plus logique.
Alors ce concert, Daniel Barenboim, il se trouve qu'il a été intégralement filmé. Et sur les images, on vous voit arriver sur scène et vous installer debout derrière votre piano. Comment on fait pour diriger un orchestre tout en jouant d'un instrument?
Je ne veux pas vous dévoiler un secret en disant que ce n'est pas facile.
On s'en sort quand même.
Oui.
De ce concert, quel a été pour vous le moment où l'émotion a été au plus haut ?
C'était en effet après le concert. Toutes les personnes qui étaient dans ma loge ont commencé à sortir, sauf une dame qui était contre le mur avec un jeune homme, une dame soixantaine peut-être, un jeune homme. Elle s'est approchée avec un bouquet de fleurs qu'elle m'a donné. Elle me racontait son histoire, qu'elle s'était mariée 30 ans avant, elle a tout de suite eu un fils, et que quand le fils avait 5 ou 6 mois, son mari est parti à émigrer à l'ouest avec l'enfant. Et chaque soir, elle pensait à lui, et elle faisait une petite lumière chez elle, espérant qu'on va le voir. Elle n'avait aucune information, ni adresse, ni téléphone, rien. Et elle me dit, et hier soir, imaginez-vous, à 9h du soir, ça sonnait chez moi. Et c'était ce jeune homme que vous voyez ici avec moi. Et c'est quelqu'un que j'attendais, 28 ans, 29 ans. Et on s'est demandé comment on peut célébrer notre réunion. Et on a décidé de le faire en venant vous écouter avec l'Orchestre Philharmonique.
Alors vous, vous vous êtes dit quoi à ce moment-là ?
J'étais vraiment profondément touché.
30 ans plus tard, Daniel Barenboim, il en reste quoi de l'espoir, de la joie qui semblait étreindre toutes celles et ceux qui étaient présents à la Philharmonie ce 12 novembre ?
Mais c'est un développement positif et négatif. Le positif est très facile à définir. Les frontières sont ouvertes. On a donné une liberté à une partie de la population. Et donc tout ça, évidemment, très positif. Mais à mon avis, il y a eu deux choses problématiques tout de suite après. Le premier, une espèce de triomphalisme de l'Occident. On a fini la guerre froide, on a fini ça, on a gagné, etc. On avait vu que le communisme ne marchait pas en Union soviétique, mais on ne peut pas dire que le capitalisme est quelque chose de complètement positif. Il crée beaucoup de problèmes aussi. Et peut-être, peut-être, le monde a raté une chance de créer un système entre les deux. Et l'autre, c'est que le gouvernement allemand a été très généreux financièrement. Ils ont donné le jour même 100 marques ouest pour chacun qui venait de l'Est. Et une aide énorme. Mais ils n'ont pas vraiment réfléchi au fait que ces gens-là ne connaissaient pas la démocratie depuis 1933. Et c'était illusoire de penser qu'ils pouvaient se mêler avec le reste et créer ensemble un futur commun.
Le dialogue, La réconciliation, l'ouverture, la tolérance à travers la musique, c'est ce à quoi vous n'avez jamais cessé de travailler, Daniel Barenboim, par ce concert, mais aussi par votre Western Divan Orchestra qui œuvre pour le dialogue israélo-palestinien. Malgré le constat de certains échecs, quel est le pouvoir de la musique, au bout du compte? Que peut encore la musique?
Qu'est-ce que c'est un orchestre? C'est une communauté de 80-100 musiciens qui ont exactement les mêmes droits et les mêmes responsabilités. C'est pas la musique qui fait ça. Et je vois, par exemple, nous avons clarinette solo, première clarinette, Western Divan, c'est un palestinien. Mais quand il y a un solo de clarinette, tout le monde veut qu'il réussisse. Tous les Israéliens aussi. Je connais pas un autre endroit où il y a un groupe de 30 ou 40 Israéliens qui souhaite que le Palestinien le fasse bien.
Celle qui ne partage pas grand-chose dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Daniel, c'est la culture. Et son actualité est profondément égoïste. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 1er novembre?
Je suis flatté que ce soit l'Académie française. Je remercie tous les académiciens.
Laurent Binet a reçu hier le grand prix du roman de l'Académie française pour Civilisation, son troisième roman. Il succède ainsi à Camille Pascal, qui avait déjoué les pronostics l'an dernier avec son Été des Quatre Rois. Binet se joue de l'histoire dans son dernier opus où il donne le récit épique d'une mondialisation qui aurait été renversée par la domination des Incas. Fiction uchronique qui déboussole, auteur atypique qui caracole, ça valait bien un prix sous la coupole. Clap de fin, le légendaire producteur américain Robert Evans est mort la semaine dernière. Il avait 89 ans, celui qu'on surnommait le Kid laisse derrière lui une vie de déglingue et de génie. On lui doit notamment d'avoir sauvé les studios Paramount en faisant émerger les plus grands succès du nouvel Hollywood dans les années 70. Rosemary's Baby, Chinatown de Roman Polanski ou encore Le Parrain de Francis Ford Coppola. Salut l'artiste.
Angoulême, c'est une ville agréable où l'on est, comme on dit en Charente, parfois benaise. C'est-à-dire bien à l'aise.
Angoulême, comme on l'aime, la capitale mondiale de la bande dessinée, vient d'être désignée ville créative de l'UNESCO, confirmant ainsi son titre de pionnière du 9e art. La nomination du Balcon du Sud-Ouest signe surtout la reconnaissance d'un genre littéraire à part entière qu'on s'apprête à célébrer en 2020, proclamée année nationale de la BD. Double dose de festivité en perspective pour la prochaine édition du Festival d'Angoulême en janvier prochain. À la bien.
Les vrais gars sont en fuite.
Et puis ouf, c'est vendredi, on sourit, on bouge son body, parce qu'aujourd'hui on fait ronron pour les derniers morceaux d'amour de Marc Lavoine. On retrouve un Thomas Fersen des plus poétiques dans son dernier opus autoproduit, c'est tout ce qu'il me reste. Et sinon on s'enflamme pour Kalash, le rappeur qui débarque avec des collaborations carabinées et des titres percutants dans sa dernière livraison Diamond Rock. Le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, invité exceptionnel de Boomerang, à l'occasion de sa venue en France pour une série de concerts. Vous serez ce soir notamment à la Philharmonie pour un cycle consacré à l'intégrale des sonates pour piano de Beethoven. Quand est-ce que vous avez commencé le piano?
Oh, que j'avais 5 ans, 5 ans et demi.
Et pourquoi le piano?
Si vous voulez croire à ma mère, elle racontait que je voulais d'abord jouer le violon parce que j'avais vu mon père jouer des concerts avec un ami violoniste. J'étais très petit, ils ont cherché un violon assez petit pour moi. En 8e, ils n'ont pas trouvé à l'époque, en 1942, en Argentine. C'est pas qu'il y avait des instruments pour les petits enfants qui se promenaient dans Buenos Aires. Et quelques mois après, mon père a joué un concert à deux pianos avec un collègue à lui et ils ont répété chez moi à la maison. Et ma mère racontait toujours, je sais pas si c'est vrai ou pas parce que je m'en rappelle pas, que je suis venu, j'ai dit, mais je vois qu'on peut jouer avec papa et jouer le piano, et c'est beaucoup mieux le piano parce qu'il est indépendant, il faut pas le tenir, il a ses propres jambes et il reste là où il est.
Vous le pensez toujours,
pas
ça?
Pas très poétique.
Vous le pensez toujours, ça?
Ah oui. Oui, parce que c'est beaucoup plus difficile de devenir un avec son instrument à jouer le piano, justement à cause de cette indépendance, que si on a un violon, ou si on embrasse un violoncelle, ou on souffle dans un hautbois. Il y a une distance, il faut entrer dans lui et le laisser pénétrer en soi.
le piano ce soir à la Philharmonie, mais aussi Beethoven. Pourquoi Beethoven, auquel vous ne cessez de revenir, j'ai l'impression?
Ben, c'est tellement évident que j'ai presque honte de le dire, mais c'est reconnu déjà très très longtemps comme un des plus grands compositeurs de l'histoire. Il n'a pas cessé de rester contemporain. C'est pas quelqu'un qui a vieilli.
Et à quoi ça tient, ça, Daniel Barenboim?
Pour moi, la raison principale, c'est que il y a une nécessité de courage pour jouer Beethoven. Le courage vient de la caractéristique courageuse de la musique elle-même qu'il a écrit. Sa préoccupation avec la dynamique du plus piano au plus fort. Il faut un énorme courage pour jouer un passage fort jusqu'au bout et après, soudainement, laisser tomber et jouer le passage suivant piano. La chose plus facile, c'est faire une espèce de transition ronde. Je crois qu'il faut un énorme courage.
Si on prend par exemple la sonate numéro 23, la Passionata, qui je le sais a beaucoup compté pour vous, qu'est-ce qui dans ce morceau, la première fois que vous l'avez entendu, vous a à ce point marqué, justement?
La première fois que j'ai entendu la Passionata, je dois avoir eu 6 ans ou 6 ans et demi, et c'était Arthur Rubinstein qui jouait à Buenos Aires.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez entendu?
Ah, une richesse énorme. Ça sonne ridicule quand on parle d'un enfant, mais pas du tout.
Et quand vous l'avez enfin joué, ce morceau, Daniel Barenboim, lorsque vous avez senti la musique vous échapper du bout des doigts, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
Que j'avais en tout cas pas la sûreté de Rubinstein.
Pourquoi, quelle difficulté pianistique propre à cette sonate est-ce qu'on doit surmonter?
Ah oui, il y a, c'est une des sonates les plus difficiles techniquement. C'est une sonate virtuose, avec énormément de contrastes dynamiques. Il faut avoir en effet 12 doigts, pas 10 pour la jouer, il y a tellement de notes.
Et combien de fois vous l'avez joué dans votre vie, à votre avis?
Ah, j'ai jamais compté.
En quoi, Daniel Barenboim, jouer une œuvre que vous avez déjà jouée, c'est toujours comme si vous la jouiez une première fois?
Mais moi, je dis toujours que c'est vraiment un cadeau de passer sa vie en étant musicien. Parce que chaque fois qu'on joue quelque chose, on apprend quelque chose. Ça veut dire que le lendemain, on sait un peu plus. Mais il faut commencer de zéro parce que le son est éphémère. Éphémère, le son est parti. J'ai appris hier, j'ai joué à Lyon, 2-3 choses que j'avais pas remarquées avec cette précision. Mais quand je vais le jouer demain, je sais plus que hier, mais je commence de zéro. C'est un cadeau, ça.
Est-ce que vous avez fini par savoir pourquoi faire de la musique, c'était pour vous une nécessité, après toutes ces années?
Mais j'adore pouvoir m'exprimer, passer ma vie avec un contenu humain. Parce que la musique, c'est pas seulement une technique, c'est mathématique, c'est poétique, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est la musique, c'est la musique. Et la musique fait partie de notre monde, parce qu'elle est physique. Le son, le silence, on oublie de la force du silence en musique. Le silence avant la première note et le silence d'un certain moment de l'œuvre.
C'est assez bouleversant ce que vous dites. Vous auriez fait de la musique une nécessité pour ces silences, parce qu'elle vous apporte des silences.
Voilà.
On va reparler de silence alors, d'infini, d'illimité, de musique juste après Louis Armstrong et Duke Ellington, que vous admirez, je le sais. Et Don't Mean a Thing, c'était en 1961, vous êtes sur France Inter avec Daniel Barenboim. Vous écoutez Boomerang, évidemment. Thank you.
is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Well, don't mean a thing, all you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot, just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 da la do 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 do. Now it makes no difference if it's sweet or hot, just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got a that a swinger. Take it, chummy.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
On est quelque part entre le parrain et l'oiseau de proie. Il a le regard perçant, à la fois doux et intransigeant. Il a cette sévérité des hommes passionnés qui ne lâchent rien tant qu'ils n'ont pas atteint ce qui s'approcherait de la perfection. Avec sa chemise rose ce matin et sa veste grise, son costume même, le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, invité de Boomerang. Et ce qui est frappant lorsqu'on vous voit diriger un orchestre, Daniel, c'est la manière dont vous bougez, évidemment. Votre corps, quel instrument est-ce que c'est, au fond, pour le musicien que vous êtes?
Vous savez, pour diriger un orchestre, apprendre à marquer le temps, ça se fait en un quart d'heure, une heure. C'est pas difficile. Mais ce qui est difficile pour la direction d'orchestre, c'est d'avoir réfléchi à tout, d'avoir pensé à tout, de pouvoir écouter la musique sans la jouer, en regardant la partition. Et c'est une lecture différente de la lecture d'une poésie, parce que c'est lié à un phénomène physique. Si vous lisez une poésie, peu importe, de Baudelaire, de qui vous voulez, vous approfondissez selon le texte. Mais un chef d'orchestre, quand il lit une partition, il a toute la sonorité qu'il s'imagine. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes instrumentistes à notre académie à Berlin, vous jouez très bien, mais ça vous dit très peu comment vous jouez. C'est comme si je vous donnais un texte en finlandais ou en danois, vous pourriez le lire parce que vous connaissez l'alphabet, mais vous comprendrez pas un mot. Et donc, dans ce sens, pour continuer la comparaison, un chef d'orchestre, c'est un polyglotte qui comprend toutes les langues. La langue des hautbois, la langue des violons, la langue de timbal.
Il vous arrive d'avoir l'impression de danser quand vous dirigez un orchestre?
Non. Non, je veux que le public danse. C'est différent.
Vous les voyez parfois danser?
Mais pas derrière, j'ai pas des yeux derrière ma tête.
Avec vous, on sait jamais. Pour vous, qu'est-ce que c'est au fond, le rôle d'un chef d'orchestre?
C'est lui qui peut, si, il faut pas oublier, la première chose qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas le chef d'orchestre qui crée le son. Regardez, je veux bouger maintenant mon bras, comme je fais quand je dirige. Dommage qu'on n'est pas à la télé pour qu'il voit, mais je lève le bras et je bats un air. Vous entendez rien. Donc, c'est pas le chef d'orchestre qui fait le son. C'est les musiciens de l'orchestre qui font le son. Il y a une grande communauté, 80, 90 musiciens selon l'œuvre. Le chef d'orchestre est le seul qui peut, si les musiciens veulent, parce que s'ils ne veulent pas, oubliez, on parle toujours de la, du pouvoir du chef d'orchestre. Il est nul, le pouvoir de l'orchestre. Je viens de vous montrer qu'aucun geste ne veut rien. Ça dépend de la capacité et la volonté des musiciens de l'orchestre. Une fois qu'on a ça, il faut que le chef d'orchestre puisse arriver à que tout le monde, tout l'orchestre, puisse penser la même chose sur la phrase qu'on va jouer.
Mais il donne une vision, quand même, aussi, de l'œuvre.
Oui.
Si on prend l'exemple de la symphonie numéro 3 de Brahms, qui sera jouée dimanche à la Philharmonie par le Staatskapelle Berlin, quels sont vos partis pris? Comment est-ce que vous avez envie que le public l'entende, cette symphonie, Daniel Barenboim?
Mais vous savez, Brahms était considéré à l'époque comme un conservateur, pas du tout un révolutionnaire. Le premier mouvement de la 3e symphonie démontre exactement le contraire. Il y a une fantaisie, un dramatisme qu'on n'associe pas avec conservatisme. Il y a le premier mouvement. Le deuxième mouvement est d'une simplicité qu'on n'attend pas après un mouvement comme le premier qui est si complexe. Tout d'un coup, il y a une grande simplicité. Le troisième mouvement est vraiment comme un lied, comme une chanson, et un final dramatique qui s'effondre et qui disparaît comme Dracula partant lentement. Voilà, je vous ai décrit la 3e symphonie de Brahms.
Le public, Daniel Barenboim, le public qui assiste à vos concerts, comment vous l'avez vu évoluer? En quoi il a changé?
Écoutez, l'année prochaine, ça va faire 70 ans que je suis sur scène.
Oui, c'est pour ça que vous êtes bien placé pour répondre.
Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de rappeler ça. Il y a 70 ans, j'étais trop petit pour me rendre compte. Mais peu à peu, je me suis rendu compte qu'une partie du public, pas énorme, mais substantielle, avait des expériences musicales où ils jouaient eux-mêmes un instrument, où ils avaient beaucoup entendu. Et c'était un public qui divorçait pas la musique des autres arts. Aujourd'hui, on peut être un être humain très cultivé sans jamais entendre une note de musique. Ça, c'était pas le cas avant. Et par exemple, la modernité, dans les années 50, les gens qui aimaient Stravinsky aimaient Picasso. Et ceux qui aimaient Kandinsky aimaient Schoenberg. Mais il y avait vraiment, la musique faisait partie d'une culture générale. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que dans les écoles, il n'y a pas d'éducation musicale. Et donc, c'est considéré par les hommes politiques, souvent, qui n'ont aucune connaissance, comme quelque chose élitaire, parce qu'ils doivent le subventionner. Et donc, c'est facile de dire, c'est élitaire, donc on n'a pas besoin de ça, les gens n'ont pas besoin de ça. Et c'est considéré comme quelque chose à part.
Et qu'est-ce qu'on fait, Daniel Barenboim, pour aller contre ça?
Écoutez, moi, à ma façon, j'ai créé une crèche musicale à Berlin, à Ramallah, où les enfants, à partir de 2, 3, 4 ans, écoutent la musique, jouent quelque chose, chantent, l'académie.
Il vous arrive d'avoir peur pour l'avenir de votre art, pour l'avenir d'œuvres qu'on pourrait croire éternelles et qui peut-être ne le seront plus?
Non. Les grandes œuvres, les chefs-d'œuvre resteront comme ça. Le problème, c'est qu'il y aura plus de monde qui verront pas que ce sont des chefs-d'œuvre.
Comment on fait, et c'est ma dernière question, Daniel Barenboim, pour préserver, peut-être même pour sauver la beauté?
Il faut la vivre quotidiennement. La beauté, l'art, la musique, vous pouvez pas le mettre à la banque. Ça va pas rester. Il faut vraiment la vivre comme quelque chose qui bouge tout le temps et qui vous fait bouger émotionnellement et intellectuellement.
Merci infiniment, Daniel Barenboim, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vous serez ce soir à la Philharmonie pour un concert autour des sonates de Beethoven et ce week-end avec le Staatskapelle Berlin pour un cycle consacré aux symphonies de Brahms. Merci à vous et merci à tout l'orchestre de Boomerang, Lola Costantini à la direction d'orchestre, Perrine Malinge au violoncelle, Léonard Billot à l'alto, Pierre Martinerie à la flûte, Joséphine Dumoulin au cymbale et Jean-Baptiste Dibert à la grosse caisse. Tout de suite les médias, Dorothée Barba et son xylophone, l'instant M, juste après ça.
Jimmy est solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait. C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui ornerait le doigt de sa future femme. Jimmy tarte terrain, Jimmy sent bien. C'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui Jimmy veut. Jimmy a aimé, mais y a mille raisons de se taire. Si tout le monde s'y met, comment Jimmy peut faire ce qui lui plaît? Cogner fort quand quelqu'un s'approche, trop près de celle pour qui Jimmy s'accroche. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper. En s'oubliant, se laisser vivre. Jimmy a réussi son coup dans la rue à son bras à dulciner. Et Jimmy cogeait déjà beaucoup ses plans sur la comète, un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est pas la première fois qu'on les observe passer. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui elle veut. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui elle veut.
Jimmy, Aloïs Sauvage sur France Inter et tout de suite les médias, Dorothée Barba, que je voudrais remercier quand même pour cette belle semaine. C'était une joie de vous avoir dans le bureau à côté, Dorothée.
Merci à vous, Augustin. Mais le xylophone, vous êtes sûr?
Ah bah, c'est votre instrument, arrêtez de mentir aux auditeurs. On est dans la vérité ici.
Tous les jours après l'antenne. Bon week-end à vous, Augustin.
Salut, bon
et à bientôt.
Dorothée.